Voici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. Merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale. Alors nous sommes ensemble en cette semaine encore très diplomatique où l'Europe regarde toujours vers le Moyen-Orient mais aussi beaucoup vers son front Est. Et nous partons pour cela en direction de Zagreb, depuis la capitale de la Croatie. Nous allons rejoindre Andrej Plenković, le Premier ministre. Alors il est du parti HDZ qui siège au sein de la droite du Parti Populaire Européen en Europe. Bonjour Monsieur le Premier ministre, je rappelle que vous dirigez ce pays des Balkans de moins de 4 millions d'habitants, entré dans l'Union européenne en 2013 et dans la zone euro en 2023. Parlons un petit peu d'une tournée européenne d'Ursula von der Leyen du côté des Balkans occidentaux, très symbolique bien sûr puisqu'elle va visiter les 6 pays qui sont candidats à nous rejoindre, 18 millions d'habitants, pour lutter contre les influences qui se développent de la Chine et de la Russie dans les Balkans. L'Union européenne a mis 6 milliards d'euros sur la table. Est-ce que vous avez l'impression que les Européens reprennent goût à l'élargissement ?
Je dirais que c'est tout à fait bien que Madame Présidente de la Commission a organisé cette visite, je dirais la visite traditionnelle qu'elle a déjà conduite il y a quelques années, vis-à-vis tous les dirigeants dans les pays de l'Europe sud-est, tous les voisins de la Croatie, alors c'est-à-dire les 6 pays qui ne sont pas dans l'Union aujourd'hui, mais ils sont entre la Croatie et la Bulgarie, Roumanie et la Grèce. Je crois que le signal, c'est que cette visite est organisée au début de son deuxième mandat à la tête de la Commission et avant la publication de rapports sur l'élargissement et le progrès que tous les 6 pays ont fait dans les derniers mois. Je crois que le paquet financier pour les Balkans occidentaux, c'est un paquet important. Le financement d'infrastructures, le financement des projets dans le domaine de l'énergie, le financement de tous les projets qui peuvent mieux lier les pays de la région et les pays de la région avec l'Union européenne sont toujours soutenus aussi par la Croatie. Nous étions tous ensemble il y a quelques jours à Berlin où il y avait le 10e anniversaire du processus du Berlin.
Oui, mais j'ai envie de dire quand même, géopolitiquement, vous n'êtes pas tout à fait aligné parce que la Serbie s'était bien placée sur le chemin de l'élargissement, mais Belgrade n'a jamais appliqué les sanctions contre Moscou et encore récemment, effectivement, son président serbe Aleksandar Vučić a remercié Vladimir Poutine d'avoir assuré les livraisons de gaz cet hiver. Est-ce que désormais c'est un pays candidat problématique ?
Je dirais que tous les pays de la région doivent remplir les critères. Il faut que le processus soit traité par les mérites propres, y compris pour la Serbie. Et je crois que l'idée qui était d'aligner la politique étrangère et de la sécurité de la Serbie avec l'Union européenne est toujours une question ouverte. Tous les autres pays de la région, plus ou moins, s'alignent 95 ou 100% même avec la ligne qui est prise de 27. Mais la Serbie, je crois que là-bas, le pourcentage est autour de 50, 60% maximum. Et on voit qu'il y a cette approche qui est approche multivecteur, un peu avec Bruxelles, un peu avec Paris, un peu avec Berlin, mais aussi avec Moscou ou avec Pékin. Alors c'est ça qui est très connu pour tout le monde. Et il faut, si la Serbie véritablement est déterminé de joindre l'Union européenne, il faut le montrer. Il faut le montrer dans tous les domaines de la politique, y compris la politique étrangère et de la sécurité.
Alors, autre pays que vous savez très déterminé à rejoindre l'Union européenne, l'Ukraine, bien sûr. Hein. Et là, les députés européens viennent d'approuver un prêt qui peut aller jusqu'à 35 milliards prélevés sur les avoirs russes. Bruxelles propose de renouveler les sanctions sur ces avoirs gelés pour une période de 3 ans. Et là, c'est toujours Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui s'oppose. On a l'impression que ce veto hongrois est insurmontable et freine beaucoup, finalement, les Ukrainiens.
Oui, on a eu cette histoire déjà au début de l'année. Vous vous souvenez quand il fallait réviser le cadre pluriannuel financier de l'Union européenne où nous avons dédié 60 milliards d'euros nouveaux, 50 milliards pour l'aide économique et financière à l'Ukraine. Il fallait deux réunions de conseil européen et le deuxième qui était fin janvier, où finalement il y avait un compromis qui était acceptable pour la Hongrie, qui n'a pas été contre, si disons, cette décision. Alors, ça se répète toujours. Là, c'est une position que je crois, c'est pas seulement la ligne de la Hongrie pour dire « Ok, nous sommes pour la paix ». Est-ce que nous, les autres, on n'est pas pour la paix? On est pour la paix aussi, mais on est aussi pour aider les victimes de l'agression russe, les victimes d'une invasion russe, le pays où il y avait des milliers de morts, où il y a une destruction énorme de l'infrastructure, pas seulement critique, mais aussi de toutes les villes et tellement de dégâts et de morts des civils, où il faut dire clairement, la Russie, c'est ce pays qui a violé le droit international et il faut aider. La Croatie comprend l'Ukraine parce que nous étions aussi la victime de l'agression de la politique des grands Serbes de Milosevic il y a 35 ans et c'est pour ça que les réflexes de mon gouvernement était toujours d'aider l'Ukraine d'une manière politique, économique, financière, mais aussi militaire.
Vous rappeliez évidemment la guerre des Balkans dans les années 90. Alors, pays voisin de l'Ukraine, la Moldavie, après une victoire étriquée du oui au référendum sur l'Union européenne, Maia Sandu n'est pas sûre de l'emporter à l'élection présidentielle. Elle s'apprête à une âpre bataille pour le 3 novembre face à Alexandru Stoyanoglu. Le candidat soutenu par les socialistes pro-russes rappelle des faits tout de suite avec Ioan Delora.
Une victoire sur le fil qui sonne comme un camouflet pour Maia Sandu, la présidente pro-européenne de la Moldavie. Certes, lors du référendum organisé dimanche, les électeurs ont approuvé le principe d'une adhésion à l'Union européenne.
Avec la guerre chez nos voisins, il est très important de décider dans quel type de pays nous vivons. J'ai voté pour le processus d'adhésion à l'UE, bien sûr.
J'ai voté pour parce que nous voulons un avenir meilleur et continuer à développer le pays.
Mais le oui l'a emporté à quelques milliers de voix près seulement. Un sérieux désaveu pour la présidente de la Moldavie, le référendum devant valider sa stratégie. Après l'invasion de l'Ukraine, elle avait tourné le dos à Moscou et porté à Bruxelles la candidature de l'ancienne République soviétique aux 2,6 millions d'habitants. Maia Sandu pointe du doigt des ingérences étrangères dans les résultats.
Des groupes criminels, en collaboration avec des forces étrangères hostiles à nos intérêts nationaux, ont attaqué notre pays avec des dizaines de millions d'euros, des mensonges et de la propagande.
Même son de cloche pour l'Union européenne.
Ce vote s'est déroulé dans un contexte d'ingérence et d'intimidation sans précédent de la part de la Russie et de ses mandataires.
Parallèlement, la candidate sortante est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle. Mais un second tour difficile l'attend. Son principal opposant est soutenu par de nombreux petits candidats résolument pro-russes. Le Kremlin, lui, se défend d'avoir influencé le scrutin.
Maia Sandu doit présenter des preuves de ses accusations. Ce serait bien qu'elle explique pourquoi il y a tant de voix qui ne sont pas d'accord avec sa ligne. Sous-entend-elle que les citoyens moldaves qui ne la soutiennent pas sont associés à des groupes criminels ?
Pourtant, d'après le groupe de réflexion Watchdog, la Russie aurait dépensé une centaine de millions de dollars pour influencer les électeurs moldaves. L'avenir du pays se jouera le 3 novembre, date du second tour de la présidentielle.
Andrei Plenković, Premier ministre de Croatie, on voudrait avoir votre opinion sur ce qui se passe en ce moment en Moldavie.
Oui. Alors, le résultat du premier tour de la présidentielle et aussi le résultat du référendum, était très étroit. Alors, il s'agit d'une publique, une nation divisée, polarisée, où il y avait sans doute beaucoup d'influence dans ce débat avant le référendum et avant les élections. Quelle est l'orientation stratégique du pays? Je crois que Madame présidente de la Moldavie, Madame Sandu, elle a voulu vraiment voir est-ce que la nation est toujours orientée vers l'Union européenne ou il y a une certaine réserve qui n'est pas vraiment clair. Malheureusement, le résultat montre que le pays est divisé. J'espère qu'elle obtiendra le soutien dans le deuxième tour. Mais cette guerre hybride de l'information, des informations, elle est présente toujours et il faut se battre pour la vérité et pour les faits.
Des élections aussi décisives législatives en Géorgie, officiellement candidate à l'entrée dans l'Union européenne, qui subit des manœuvres, des pressions, des intimidations de Moscou. Est-ce qu'on est en train de perdre ce voisinage, justement, est de l'Union européenne, au profit de cette désinformation russe systématique? Est-ce qu'on est assez attentif à ça?
Vous vous souvenez que la politique de voisinage et de partenariat de l'Union européenne, au début, il y avait 6 pays. Après un certain temps, on a eu 3 pays qui restaient toujours décidés. Entre-temps, la Biélorussie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ils ont dit « Ok, on est bien où on est, on a d'autres priorités ». Maintenant, on voit des difficultés dans la Géorgie et dans la Moldavie. Le seul pays où il y a une détermination très claire, mais qui est malheureusement en guerre, c'est l'Ukraine. Et pour ça, il faut que les forces démocratiques dans tous les 2 pays prend la bataille démocratique électorale d'une manière très déterminée et essaye d'obtenir le soutien de la population. Je crois que c'est pas facile parce qu'il y a des forces qui sont en train de réorienter la direction du pays.
Alors, en Croatie, vous-même êtes Premier ministre, Monsieur Plenković, depuis 8 ans. Mais 30 ministres ont dû démissionner de vos divers gouvernements suite à des affaires révélées par la presse. Et vous êtes dans une cohabitation d'ailleurs très dure avec le président social-démocrate Zoran Milanovic, que vous accusez régulièrement d'être plutôt pro-russe. Sur quelle base, expliquez-nous?
D'abord, moi je suis déjà Premier ministre 8 ans et j'ai gagné 3 élections de suite parlementaires. La dernière, c'était au 17 avril cette année. Après, on a gagné aussi les élections européennes où moi-même j'étais le premier dans la liste de mon parti HDZ qui appartient à la famille de Parti Populaire Européen. On a obtenu 50% des mandats au Parlement européen, c'est-à-dire mieux que tous les autres parti politique de notre famille politique. Alors, il y a un grand soutien de ce qu'on fait. Malheureusement, le président de la République, il n'est pas à la même ligne que le gouvernement quand il s'agit de soutien à l'Ukraine et quand il s'agit de condamnation de la Russie en tant que l'agresseur, le pays agresseur dans ce contexte-là, mais aussi de la participation de, par exemple, militaires croates dans l'activité de l'OTAN de soutien et de formation pour les militaires ukrainiens qui étaient prises comme la décision pendant le sommet de l'OTAN à Washington où lui-même était le président qui a représenté la Croatie. Il a rien
oui, il veut mettre son veto sur ses missions de formation effectivement des soldats ukrainiens.
Ouais. Donc, malheureusement, c'est une décision mauvaise et je dis ça publiquement, j'ai expliqué plusieurs fois. Nous devons obtenir 2/3 de votes au Parlement croate. On est en train d'expliquer à l'opposition, il ne faut pas soutenir Milanovic parce que c'est pas dans l'intérêt national de la Croatie. Le seul bénéficiaire de cette décision négative serait la politique du Kremlin et de la Russie. C'est pour ça qu'on est en train de demander aussi une explication détaillée, approfondie, du côté de l'OTAN.
L'Union européenne envisage d'externaliser certaines politiques migratoires. Et, d'ailleurs, on a beaucoup pris au dernier sommet, pour exemple, Giorgia Meloni, qui a ouvert en Albanie, pour un coût de 670 millions d'euros, 2 centres donc, de rétention pour les 5 prochaines années. 12 migrants ont dû retourner en Italie après une décision de la justice qui juge qu'on ne les renvoie pas vers des pays sûrs. Et c'est quand même juridiquement très compliqué, ce chemin.
D'abord, il y avait une lettre de la présidente de la Commission avec 10 points qui ont donné, je dirais, le cadre de ce débat pour les mois qui viennent. Et aussi, on a eu un grand débat sur la demande de Premier ministre polonais, mon ami Donald Tusk, parce qu'on a vu cette politique de militarisation des migrants illégaux qui sont pratiquement poussés vers les frontières de pays de l'Europe centrale, même les pays baltes et la Pologne. Ils ne sont pas là par hasard. Alors, ce n'est pas facile d'arriver l'Asie centrale ou l'Afrique ou le Moyen-Orient et se trouvait à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ça c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas entendu. Quand il s'agit de cet exemple, de ce centre exterritorial où il y avait un arrangement entre la première ministre italienne, Madame Giorgia Meloni, et le premier ministre albanais, Monsieur Rama, c'est une tentative. Nous sommes un peu réservés pour voir quelles seront les vraies conséquences. Pour le moment, on voit beaucoup de difficultés, même juridiques et opérationnelles, parce que ce centre n'a pas eu l'idée ou comme la finalité politique d'avoir et recevoir les enfants ou les femmes, mais seulement les hommes qui sont matures. Et dans la vie pratique, on voit qu'il y avait déjà, au début de ce processus, des problèmes. Alors, on est un peu réservé.
Et vous allez devoir vous y intéresser, évidemment, de près, parce que dans la nouvelle équipe présentée par Ursula von der Leyen, vous avez la nouvelle commissaire à la Méditerranée. C'est un intitulé qui a été créé et vous avez nommé, bien sûr, la Croate Dubravka Šuica, qui est là pour son deuxième mandat. Et elle est, bien sûr, Monsieur Plenković, de la même famille politique que vous et d'ailleurs que d'Ursula von der Leyen, le Parti populaire européen. Est-ce que ce portefeuille vous plaît d'abord ?
D'abord, je suis très content que Mme von der Leyen a dédié ce portefeuille nouveau dans le, je dirais, explication des différents mandats et travail et portefeuille des différents commissaires, c'est-à-dire Méditerranée, à la commissaire croate qui est déjà passée 5 ans à la Commission en tant que vice-présidente responsable pour la démocratie et démographie. Je crois que Dubravka Šuica a fait un bon boulot pendant les dernières 5 ans. Et elle, comme ancienne maire de Dubrovnik, qui était la République pour des années, a une grande expérience vis-à-vis de la Méditerranée. La Croatie est un pays méditerranéen, adriatique, et je suis sûr que maintenant elle va prioriser toutes les politiques de l'Union européenne vis-à-vis les pays du nord de l'Afrique et de Méditerranée de l'Est, c'est-à-dire la situation et la crise à Moyen-Orient, y compris la politique migratoire, les crises humanitaires, politiques de transport, politiques de développement, politiques de la coopération économique.
À l'issue d'une conférence de la paix à Paris pour le Liban, donc, la France annonce une aide de 100 millions d'euros, l'Union européenne aussi des centaines de millions d'euros sur la table. Mais est-ce que vous jugez que finalement, notre Union européenne à 27 se soucie suffisamment du conflit à Gaza et au Liban ?
Je crois que oui, c'est un des dossiers sur lequel nous sommes en train de débattre quasi chaque conseil européen, quasi chaque réunion ministérielle des Affaires étrangères. Et je crois que la conférence qui a eu lieu à Paris, où la Croatie était représentée par notre ministre des Affaires étrangères et européennes, a eu lieu pour aider le Liban dans le contexte de la situation qui est là suite à la inclusion de Hezbollah à l'attaque sur Israël après l'attaque de l'année dernière de Hamas en Israël. Malheureusement, cette guerre a escalé et il faut que tous les pays de l'Union européenne envoient toujours l'aide humanitaire aux situations de crise où on voit les gens en difficulté.
L'élection américaine est très suivie en Europe. Est-ce qu'un deuxième mandat de Trump, que beaucoup redoutent parmi, évidemment, vos homologues européens, mettrait en danger la cohésion et même la sécurité des Européens, selon vous ?
Je crois qu'on a déjà passé 4 ans de la cohabitation avec l'administration du président Trump et on a trouvé parfois les situations pour les questions qui étaient ouvertes, qui étaient difficiles. Ce que je suis sûr qu'on va respecter le résultat, il faut que cette élection, cette fois, par rapport aux dernières fois, donne une image de l'état de droit et le bon fonctionnement de l'institution américaine, qui était toujours une inspiration, y compris pour le développement de l'Union européenne. Et j'espère que le résultat sera tel que nous pouvons travailler ensemble comme avant. C'est pas à nous à décider. Je suis sûr que ce partenariat qui existe de manière bilatérale ou dans le contexte de notre alliance de l'OTAN, va mettre dans le premier plan ce qui nous lie plus fort que les choses qui nous séparent.
Merci à vous d'avoir été, Monsieur Plenković, en notre compagnie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Restez sur nos antennes France 24 et Radio France Internationale, où l'actualité continue.